un des conseils que j'ai retenu de toutes les rencontres faites avec les expatpreneurs qui ont témoigné sur le podcast, savoir s'entourer. C'est pourquoi je vous invite à jeter un œil à nos packs d'accompagnement pour vos business nomades. Que vous soyez en idéation, au tout début de lancement de votre projet ou à un stade bien plus avancé, nos experts sont là pour vous aider à développer votre business d'expatpreneur et à le faire décoller. Retrouvez toutes les informations sur le site ou sur les réseaux sociaux. Et maintenant, place à notre nouvelle invitée pour ce nouvel épisode.
Partir à l'autre bout du monde ou vivre dans le pays voisin, l'expatriation reste une aventure à part entière. Être bousculé dans ses habitudes, s'adapter à un nouvel environnement, se réinventer professionnellement, se découvrir un peu plus chaque jour, à coup sûr, vous écoutez The Musette, le podcast des expatriés entrepreneurs. Bonjour à tous, je suis Adeline Verdier-Velten, sa fondatrice. Dans ce podcast, vous allez découvrir des histoires de vie, d'envie, des témoignages de femmes qui ont décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat durant cette parenthèse de vie à l'étranger. Courageuse, créative, innovante, solidaire, déterminée, engagée. Bienvenue dans l'univers inspiré et inspirant de nos musettes, nos expatpreneurs aux quatre coins du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast de The Musette où je parle d'expatriation et de création d'entreprise avec nos femmes expatpreneurs inspirées et inspirantes, nos musettes. Aujourd'hui, direction le Canada à la rencontre de Pauline. Bonjour Pauline et bienvenue dans
Hello Adeline.
Bienvenue dans cet épisode qui t'est dédié aujourd'hui, ravie de te recevoir.
Merci à toi de m'accueillir aujourd'hui.
Écoute, je suis contente, on fait un Montréal-Dubaï, le chaud, le froid.
Exactement, il y a une petite transition.
Sachez, mesdames et messieurs, que pour moi, il est 16h, à l'heure de l'enregistrement, il est 7h du matin pour la pauvre Pauline.
7h, moins 20 degrés, tout va bien.
Merci de t'être réveillée aux aurores. Pauline, avant qu'on en apprenne plus sur ce que tu fais, où tu vis, j'aimerais avoir un peu ton background. J'aime bien connaître ce qu'ont fait nos invités avant. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire? D'où tu viens? Ton âge, si t'es OK? Qu'est-ce que tu as fait comme d'études? Et dans quel secteur tu as commencé à travailler?
Alors, déjà, je m'appelle Pauline Chardonnay. Je viens d'avoir 29 ans. Je suis née en Normandie où j'ai vécu un petit moment. J'ai commencé mes études par quelque chose que j'ai détesté. J'étais pas une flèche à l'école, donc j'ai passé un bac pro comptabilité qui n'avait absolument rien à voir. Tout ce que je savais en terminant ce bac, c'est que je ne ferais jamais de comptabilité, que j'ai quand même eu. Et en fait, juste après ça, il fallait que je prenne un tournant un peu, que j'actionne quelques manettes. Donc, je suis partie d'abord à l'étranger en Australie, puis je suis revenue. On reviendra peut-être là-dessus plus tard, mais je suis rentrée faire une école de styliste modéliste à Rennes avant de partir à Paris et de commencer à travailler dans la mode et notamment dans la chaussure et dans la maroquinerie.
Tu viens de Normandie. Je me demandais quel a été ton... Tu as vécu à Paris, donc je sais on en reparlera en effet de l'Australie, etc. Mais comment s'est passée cette arrivée entre deux mondes, je dirais, parisien et puis un peu la campagne, quoi? Choc. Et une expatriation aussi.
Finalement, comme j'ai fait l'Australie entre-temps et que j'étais à Sydney, Paris-Normandie, il y a vraiment eu Sydney entre les deux qui a bien... bien lisser la chose parce qu'effectivement, la marche est haute. Malheureusement, ce n'est pas loin du tout. Hein. C'est 1h45 de route, donc ça se fait très bien. Mais entre aller y passer des week-ends et voir des potes et y vivre, il y a quand même un monde. Paris a été compliqué pour moi. Je ne m'y attendais pas du tout. Non pas parce que c'est une grosse ville, parce que comme je le dis, j'avais déjà vécu à Sydney avant, donc ça ne me faisait pas peur du tout. Mais c'est plus la mentalité qui était très différente. Mais finalement, pour moi, la plus grosse marche a vraiment été Normandie, Sydney, où là, c'était tout était différent, quoi. Donc,
comment tu as eu l'occasion d'aller vivre à Sydney parce que c'était ton première expérience en plus d'expatriation. Donc, bon, passé à Normandie, à Sydney, il y a une grosse marche. c'était quoi les circonstances de ton arrivée et pourquoi là-bas, en fait? Tu aurais peut-être pu aller ailleurs.
Eh bien, écoute, justement, après ce bac désastreux que j'ai eu hein, quand même, je savais que je voulais partir depuis longtemps. Et en fait, mon papa a vécu 15 ans en Nouvelle-Zélande, ce qui fait que j'avais quand même déjà des bonnes impressions sur le voyage, sur l'expatriation, sur cette partie de la planète. Et l'Australie me faisait rêver. Donc, je me suis dit, OK, je pars. Donc, je venais à peine d'avoir 18 ans quand je suis partie. Je suis partie toute seule. J'ai fait mon visa et puis go. Et en fait, j'ai été accueillie par des gens avec qui travaillait mon père, qui était néo-zélandais, qui s'était installé à Sydney. Donc voilà, je suis arrivée comme ça. Au début, je devais juste être de passage chez eux. Bon, finalement, ce sont devenus mes grands-parents adoptifs et je suis restée là-bas. J'ai fait 10 mois environ. Donc, je suis restée tout le temps là-bas et puis j'ai enchaîné différents jobs sur place, notamment une expérience en particulier. En fait, j'avais 3 jobs la semaine. Le matin jusqu'en début d'après-midi, je travaillais pour Passepalais Pearl, qui est une énorme bijouterie extrêmement luxueuse en Australie. Et là-bas, j'étais assistante designer, donc c'est une chose que je n'avais jamais fait. L'après-midi, je m'occupais d'un petit garçon à la sortie de l'école et j'étais nounou. Et le week-end, je vendais des crêpes sur les marchés. Donc,
c'est un gap. Il y a un gap, c'est les crêpes, mais ça t'a rappelé la Normandie.
C'est ça. Le matin, je manipulais des bijoux à plusieurs millions de dollars. Et le week-end, je faisais des crêpes. Donc, je me levais à 4 heures du mat et j'allais faire les marchés. Donc, il n'y avait vraiment rien à voir. Mais en fait, c'est cette expérience chez Passepalais qui a fait naître en moi l'envie de me lancer dans le design après. Et donc, j'ai toujours dessiné, mais j'avais vraiment aucune idée de ce que je voulais faire. Et c'était un peu le but de ce voyage, en fait. C'était un peu de trouver ma voie parce que je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Voilà ce qui s'est passé.
Qu'est-ce que tu as le plus aimé là-bas en Australie et le moins aussi ?
Je dois dire que j'ai aimé 100% de l'Australie. J'aurais beaucoup de mal à trouver du négatif. Ouais. Ce qui était assez incroyable, hormis les températures qui étaient très différentes de ma Normandie natale, que j'aime. Hein. J'aime la Normandie, il n'y a vraiment aucun problème, j'adore la Normandie. Mais je pense que la mentalité, c'est vraiment ce qui était le plus marquant et qui m'a fait vraiment commencer à réfléchir, à me poser des questions. Et pour moi, j'étais jamais sortie, j'avais voyagé en vacances, quoi, mais j'étais jamais partie toute seule comme ça aussi loin. Donc pour moi, il y avait un type de mentalité, il n'y en avait pas autant. Et là-bas, les gens sont très, très positifs, très aimants, toujours plus. Ils t'accompagnent énormément. Quoi que tu fasses, ils voient toujours le verre à moitié plein, ce qui était un peu à contrario de ce que j'avais vécu en France et en Normandie. De voir plutôt le verre à moitié vide. Et en fait, cette mentalité hyper, hyper solaire, c'était quelque chose d'assez fou et aussi de pouvoir avoir sa chance dans tout. Parce que quand je suis arrivée, je n'avais aucune expérience dans aucune des choses que je faisais. Ça n'a nullement posé problème. Et quand ça s'est terminé, j'avais vraiment l'impression de quitter ma famille, quoi, alors que je les connaissais depuis peu de temps. Donc, vraiment un pays extrêmement agréable. Je suis retournée en vacances quelques années plus tard et j'avais tout le temps le même ressenti. Et finalement, le seul bémol de ce pays, c'est que c'est trop loin de la France, de ma vraie famille, en fait.
Ouais, c'est ça.
Mon retour, je me souviens, j'avais mis 32 heures toute seule, donc c'était long. C'était très long. Voilà. Mais sinon, j'ai tout aimé. Et d'autant plus que c'était vraiment ma première expérience. Tout a été fascinant, quoi.
Ouais.
Tout a été fascinant.
Je retiens aussi que c'est un pays qui laisse sa chance aux jeunes non expérimentés. Et que c'est pas grave si tu n'as pas encore fait de stage avant. C'est bien.
Il y a qu'une chose, effectivement, ce n'est pas grave du tout, on n'ait pas fait de stage. Et j'y reviendrai plus tard quand je parlerai du Canada. Mais la chose qui est assez étonnante, c'est qu'en fait, ils détestent les Français. Alors, ils aiment beaucoup notre accent, qui est très sexy d'après eux. Mais en revanche, il y a un vrai souci avec les Français, c'est-à-dire qu'il y a plein d'offres d'emploi où en bas, il est écrit PS, pas de français. Parce qu'ils sont vraiment... en fait, on est mal élevés, on est sales, on ne respecte rien. Par exemple, je me souviens avoir entendu le vol à l'étalage. Ils appellent ça le French shopping. Donc, c'est ça. Mais alors, c'est vraiment assez contradictoire parce que d'un côté, quand tu arrives, ils sont vraiment passionnés de d'où tu viens, ce que tu fais. Enfin, tout est beau, on est bien habillé. Enfin, vraiment, tout est parfait, mais en même temps, si tu pouvais un peu y aller bien, ce serait pas mal. Donc voilà. Mais moi, ça m'a jamais posé problème. Hein. Mais j'avais beaucoup de retours d'amis où c'était ça.
Bon, ok. Donc l'Australie, très cool. Je voudrais revenir un petit peu sur ton parcours dans l'univers de la chaussure. Pourquoi ce monde-là ? Parce que c'est particulier, enfin la chaussure. Tout le monde ne fait pas ça.
En réalité, pour être tout honnête avec toi, ça a été du hasard parce que quand j'ai eu terminé mon école de mode, la grosse difficulté, c'est de trouver du travail à Paris. Donc, de trouver d'abord des stages, puis après, trouver un vrai job. Autant dire que ce n'est pas le métier où il y a le plus d'offres d'emploi. C'est très, très compliqué. Surtout quand tu as fait une école de styliste, modéliste, tu espères devenir styliste. Ce qui est sur le papier une très belle idée, un très beau rêve, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, en fait, tout simplement, je suis tombée sur une offre d'emploi pour travailler chez Cézanne, où au début, j'étais assistante studio au pôle chaussures et maroquinerie. Ça a été vraiment je ne parle pas des stages, mais ça a été ma première expérience en véritable contrat. Donc, j'étais assistante studio, puis je suis restée un moment, puis je suis devenue chargée de qualité et de production chaussures. Parce que voilà, les choses ont fait qu'ils avaient besoin de ça à ce moment-là, qu'en étant assistante du studio, j'assistais tout le monde, aussi bien la styliste que le développement, que la production, que la qualité. Enfin, je me suis découvert une passion pour la chaussure. J'aimais déjà beaucoup les chaussures, mais du moins, je ne l'avais jamais étudiée en tant que telle à l'école, parce qu'on étudie le vêtement, le textile, et non pas du tout tout ce travail du cuir, hein. Et en fait, j'ai adoré beaucoup plus que le textile. Et donc, j'ai continué comme ça. J'ai fait quelques temps chez Cézanne. Et après, je suis partie chez Kenzo, où pareil, j'étais chargée de la prod, de la qualité, des chaussures.
Okay. Et toi, tu t'étais mis à côté, je ne sais pas, à dessiner des chaussures. Tu t'étais dit, je vais peut-être créer une collection
Oh bah, de toute façon, évidemment, hein, quand tu as fait une école de style, c'est toujours ce que tu recherches. Et déjà, trouver un poste de styliste, c'est compliqué, mais trouver un poste de styliste dans la chaussure, ça ne rajoute pas du tout de facilité. Il y a quoi s'il y a 5 postes dans l'année et encore sur des centaines et des centaines de candidatures, c'est très, très dur. Et donc, t'espères toujours qu'en rentrant dans une maison de mode, tu rentres sur un poste et que tu évolues sur un autre. Mais encore une fois, sur le papier, ça paraît très beau, mais ça ne se passe pas comme ça. Donc, en fait, j'ai appris un nouveau métier que je ne connaissais pas du tout et j'ai tout appris sur le terrain. Et c'était très, très intéressant. Je supervisais les prods. Donc, mon travail, c'était notamment d'aller en usine. Je partais à l'étranger, j'allais sur place. Je vérifiais que tout était en accord avec ce qu'avait demandé Stylis, si la chaussure allait au point, si toutes les productions, parce que faire une chaussure, c'est une chose, mais en faire des centaines, voire des milliers, c'est autre chose. Et voilà, pour grossièrement expliquer mon poste. Mais bon, malgré le fait que ce soit très intéressant, si on parle juste du métier en lui-même, il me manquait cette partie création. Ça, c'est évident. Donc, il y avait quand même un gros bémol de ce côté-là, sans compter l'univers de la mode.
Et difficile. Ouais, j'allais te demander justement, c'est quoi les challenges un peu dans les difficultés dans ce monde qui est vraiment à part. Hein.
Je me souviens, étant petite, enfin jeune ado, regarder Le Diable s'habille en Prada avec ma maman et je me dis, oh là là, ça a l'air génial, jamais je pourrais faire un truc comme ça. Elle me dit, je vois pas pourquoi, il y a aucune raison, mais ça n'a pas été plus loin parce que sur le moment, je savais pas du tout que je voulais faire de la mode. Et en fait, quand finalement, c'est ce que j'ai fait, il s'est avéré que c'était exactement comme dans Le Diable s'habille en Prada, qu'il n'y avait aucune différence.
Il y a des tests et il y a des bosses un peu durs.
Donc, c'est compliqué. Moi, c'est un milieu qui ne me correspondait pas par la mentalité des gens. C'est très particulier. C'est exactement comme on les voit dans les films. Alors, il y a des gens à qui ça correspond, on les sait très bien, tant mieux, hein, il en faut. Moi, ce que je préférais, c'était la partie où j'étais en usine parce qu'en fait, j'étais avec des gens du terrain. J'étais avec des gens normaux, quoi, en fait, qui vivaient comme moi et sans qui étaient humains, en fait, tout simplement. Et ce milieu de la mode, j'essaie de peser mes mots parce que vraiment, en fait, déjà, ça dépend des marques pour lesquelles on travaille, hein, des maisons. Les choses sont très différentes d'une maison à une autre. Donc, on ne peut pas du tout faire une généralité. Mon expérience chez Cézanne et mon expérience chez Kenzo n'a absolument rien à voir. Il y a des choses très bien partout. En revanche, il y a quand même ce truc de travailler constamment pour des caprices, en fait. Il y a ce côté très hautain, un peu malsain aussi, quand même très malsain, je dirais, que moi, j'ai ressenti. Et en fait, si on ne rentre pas dans les critères et dans les cadres de ce milieu, bon, bah, ça ne fonctionne pas, ça ne matche pas du tout. Et de toute façon, hormis ça, donc ça, c'est une chose, donc tu ne t'en rends pas compte forcément sur le moment. Là, moi, j'ai cité les marques que j'ai travaillé avec, ça s'est bien passé. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur celles dont je n'ai pas parlé. Mais,
Façon, on sait que c'est un univers un peu de toute façon difficile, qu'il y a des créateurs à la tête de ça, que forcément, ils ont des exigences qui, bon, après, peuvent sembler un peu farfelues, mais ouais, je comprends tout à fait.
Il faut un peu laisser de côté ses sentiments et accepter de se faire bouffer tout le temps, quoi. Donc, c'est parti. Mais comme il y a plein de milieux, mais je donne toujours cette référence aux gens. Vraiment, ça se passe comme dans le cas de Sabine. C'est vraiment exactement la même chose. Il y a pas de différence.
Donc, allez tester par vous-même, vous verrez bien.
c'est ça. Mais faut pas. Voilà, ça correspond à plein de gens. Il y a des choses très bien. Et en fait, ce que je réalisais, c'est que dans ce métier, ce que je préférais, bah, finalement, c'est avoir accès à toutes ces ventes, tous ces produits, Donc ça, évidemment, on est à fond dedans tout le temps. Donc ça, c'est passionnant. Le métier en lui-même était extrêmement intéressant. Vraiment, le travail de la chaussure, je trouvais ça... le travail du cuir était fascinant. Rencontrer les artisans, c'est quelque chose de magique. Mais malheureusement, on n'est pas tout le temps sur le terrain. Et moi, c'était vraiment cette partie dans Paris, avec les gens de la mode, où c'était trop loin, en fait, de ma personnalité, de mes idées, tout simplement. Donc, voilà.
Donc, c'est bien. Donc, un jour, en 2023, tu te dis avec ton compagnon, tiens, qui lui n'avait pas encore tenté l'expérience d'expatriation, si on allait ailleurs. Pourquoi vous vous êtes dit ça? Pourquoi le Canada plutôt qu'ailleurs?
Alors, pourquoi on s'est dit ça? Donc, comme tu l'auras compris, Paris, ça ne matchait pas, hein. Vraiment pas. Je passais plus tous mes week-ends en Normandie, donc ça avait vraiment pas d'intérêt. Donc on voulait vivre une nouvelle expérience. Moi, ayant adoré mon expérience en Australie, mon conjoint n'étant jamais parti à l'étranger y vivre, on s'est dit bon bah ce serait l'occasion en fait de réessayer de créer une expérience à deux cette fois-ci et de découvrir un nouveau pays. Les choix qui se sont présentés à nous, c'était effectivement bah, l'Australie, parce que j'avais vraiment adoré. Lui était retourné en vacances avec moi, il avait vraiment kiffé aussi, donc on y pensait vraiment très fortement. Lui, de son côté, a de la famille qui a vécu très longtemps, pareil, des quinzaines d'années au Québec, et il en avait entendu énormément de bien. Donc on s'est un peu renseigné sur le Canada, hormis le visa qui était dur à obtenir. Ça semblait bien et surtout, ça semblait nous correspondre. Et c'était beaucoup plus proche de la France que l'Australie. Donc, ouais. Donc, finalement, ça remplissait beaucoup de cases. Donc, on s'est dit, mais en fait, le Canada, c'est très bien. On est très nature. On avait entendu beaucoup de retours sur Montréal, qui est une grosse ville, certes, mais dans laquelle on respire, dans laquelle il y a de la place et on ne se sent pas étouffé comme c'est le cas à Paris. Donc, ouais, ça répondait.
Ouais. Donc, c'était plus ça, quoi.
C'est ça, avec beaucoup, beaucoup d'opportunités professionnelles, une belle ouverture d'esprit aussi. Donc oui, ça répondait. En fait, ça nous faisait des retours qu'on avait, parce qu'on n'a jamais été avant. Ça nous faisait beaucoup penser à l'Australie, mais en version
plus fraîche.
mais ça semblait être très, très similaire. Okay. Donc, on s'est dit, bah, go, on s'inscrit au PVT, qui est le Working Holiday Visa du Canada. Qui nous permet en tant que Français en plus de rester 2 ans au lieu d'une année, ce qui n'est pas le cas pour tous les autres PVT ailleurs dans le monde, c'est 1 an, l'Australie c'est 1 an et renouvelable évidemment sous condition, mais ça nous assurait déjà 2 ans et 2 ans ça me semblait être une bonne base pour pouvoir essayer de développer quelque chose, voir si ça nous plaît, etc. Donc on s'est inscrit. Il faut savoir que le PVT au Canada est quand même, c'est quand même assez compliqué. Dans le sens où c'est un tirage au sort, donc il n'y a vraiment aucun critère qui rentre en compte. C'est équivalent à tu écris ton nom sur un bout de papier, tu le jettes dans un bocal et peut-être un jour dans ta vie, tu seras tiré au sort. Il y a des gens qui sont inscrits depuis 8 ans, qui n'ont jamais été tirés au sort pour venir, donc ils ne peuvent pas venir. Et des gens qui s'inscrivent, ils sont tirés au sort le lendemain. Donc c'est vraiment du
hasard. Vous avez été ultra chanceux parce que vous décidez ça en 2023, nous sommes début 2024 et vous avez déjà vécu là-bas, quoi. Donc vous avez
c'est ça.
En plus tous les deux, quoi, parce que enfin suppose qu'ils tirent au sort les gens et ce n'est pas forcément les couples. Donc,
Exactement. Tirent les personnes à l'unité pour le visa PVT. Il y a d'autres visas, mais ça, c'est le visa le plus courant qui permet de faire plus de choses. Donc, on s'est inscrit. En fait, on est arrivé en 2023, mais on s'est inscrit en 2022 parce que l'inscription se fait avant. On s'est inscrit tous les deux. J'ai été tirée au sort au bout d'un mois et Guillaume le mois d'après. Donc, ça s'est fait très, très vite. Et sauf qu'en fait, on a été tirée au sort, on était toujours à Paris. Et il y avait... En fait, on ne pensait pas du tout que ça irait aussi vite. Donc, il a fallu un peu accélérer les choses. Et oui, de là, se sont présentées beaucoup de choses en même temps. Parce qu'en fait, au moment où on s'inscrivait plus ou moins en PVT, moi, je prenais la direction d'une nouvelle voie professionnelle. Donc, en fait, tout était nouveau. Il y avait toutes les cartes, les dés étaient jetés dans un sens complètement différent. Donc, c'était l'inconnu. 2023, c'était l'inconnu.
OK. Non, mais c'est chouette. J'aime bien, tout va vite. Mais en même temps, vous êtes plein de chance. Ça devait être écrit, vous deviez le faire. Je me demandais, quand vous êtes arrivé là-bas, qu'est-ce que tu t'es dit? Parce que, enfin voilà, c'était là, c'est pas un, je pars en vacances, quoi. C'est là, je vais m'installer. Et tu vois, la mentalité, enfin le mindset, il est pas le même. Donc vous vous êtes dit quoi? Enfin toi surtout, c'est toi que j'interroge.
De toute façon, on a les mêmes ressentis, mais j'ai tout de suite, c'est exactement comme j'avais envisagé dans ce qui est de la mentalité des gens, c'est-à-dire comme en Australie, les gens sont très positifs, ils sont très gentils, ils viennent vers toi facilement. Toujours dans le positif, en fait, tout est beau, tout est...
C'est le monde des bisounours.
Exactement, exactement. Et franchement, après Paris, qu'est-ce que ça fait du bien. Je suis désolée pour les Parisiens. C'est une ville magnifique et vraiment, j'adore cette ville, mais pour les vacances.
Voilà, c'est ça.
Ça faisait du bien.
Tu disais, les gens, ils vous accueillent assez facilement. Généralement, enfin, un des canaux pour se faire des relations, c'est le canal de l'école, quand on est des enfants. Donc là, vous n'en avez pas encore. Je me demandais comment, voilà, en tant que jeune couple qui n'a pas ce canal-là, comment font les gens qui arrivent et qui disent « Ok, comment je veux connaître du monde en expatriation? Je suis tout seul, je ne connais personne.
» C'est la partie la plus dure que j'avais pas pris en compte dans cette nouvelle aventure, parce que comme j'expliquerai plus tard, maintenant je travaille toute seule chez moi, donc c'est-à-dire donc, pas de collègues, effectivement pas d'enfants, donc pas d'école, rien du tout, et mon conjoint lui est responsable, donc du coup les collègues ne peuvent pas devenir des amis, donc là ça a été plus compliqué, donc moi il y a eu beaucoup de j'ai fait beaucoup de rencontres, enfin beaucoup, ça va faire, je le dis aujourd'hui, ça fait un an qu'on est à Montréal, donc je peux pas dire qu'il y ait beaucoup, mais les voisins sont devenus des amis. Pour ce qui est du pro, j'ai essayé de participer à beaucoup de salons, de groupes aussi sur les réseaux, beaucoup de démarchages, beaucoup, en fait faut continuellement être en activité et pas se laisser dépérir, quoi. Parce que tu peux rapidement te retrouver tout le temps à deux. Alors, c'est très chouette, hein. Mais bon, au bout d'un moment, il y a quand même il y a une vie sociale à avoir. Et ça, c'est encore la partie qu'on a encore du mal à apprivoiser. Après, il y a énormément de groupes pour les Français qui s'installent. Je sais que moi, en Australie, j'avais beaucoup joué là-dessus. Mais nous, on n'a pas vraiment voulu quitter la France. Le projet, ce n'était pas de retrouver full français partout. Donc, on a plutôt essayé d'éviter ce genre de groupe et de rencontrer des gens d'ici. Donc, voilà, le voisinage, les réseaux aussi. Je sais que ça m'est arrivé d'écrire à des gens et qu'on essaye de se rencontrer plus tard par le biais de travail, de rencontres, de salons, d'événements, tout simplement, où on discute. Mais il faut vraiment garder cette activité constante, ouais. Encore plus dans un pays comme le Canada où il y a quand même 4-5 mois de l'année où il neige tout le temps, il fait froid, même si ici les activités extérieures hivernales sont incroyables et ça n'a rien à voir avec un hiver qu'on peut vivre en France, tu peux rapidement rester tranquille et avoir la flemme de ne rien faire, quoi, parce qu'il fait très froid. Donc,
il faut être proactif quand on voilà, quand on n'a pas ce canal-là, c'est vrai qu'il faut se forcer. Et alors, si en plus on n'est pas de nature très.
Ouais.
Gardiste,
il faut vraiment se forcer et rester proactif là-dessus, c'est certain.
Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que quand tu arrives au Canada, c'est là que tu te rends compte que tu vas trouver un peu quand même ta voie professionnelle. Tu t'es fait une espèce de réflexion, un cheminement intérieur et donc tu deviens
illustratrice jeunesse.
Alors raconte-nous tout, comment ça s'est passé?
Le tout début, en vérité, a commencé, mais c'était vraiment le début, quand je quitte Paris, parce qu'il y a eu genre 6 mois de transition entre Paris et le Canada. Et en fait, c'est au moment de cette transition qu'une maison d'édition me contacte. Parce qu'il faut savoir que j'ai jamais trop arrêté de dessiner, notamment quand j'étais dans la mode, parce que j'expliquais qu'il me manquait ce côté créatif. Donc, je passais beaucoup de temps à dessiner le soir, pendant les pauses déjeuner, dès que je pouvais. Et j'ai commencé à publier sur les réseaux. Et en fait, donc, une maison d'édition est tombée sur mes dessins et m'ont proposé d'écrire et d'illustrer un livre jeunesse, parce que c'est vraiment mon univers, l'univers de la jeunesse. Et je me suis dit, ah ouais, why not? Pourquoi pas, je ne me suis jamais pensé à ça. Et je me suis dit, bah go. Donc, c'est à ce moment-là, tout s'est lancé. Donc, je quitte mon travail à Paris, j'abandonne. Je retourne en Normandie, je prépare tous les préparatifs pour partir au Canada. Et en parallèle, je commence à l'écriture et l'illustration de mon premier livre. Tout va très, très vite. En réalité, j'ai jamais fait ça. Donc, je me lance vraiment dans l'inconnu. C'est la première fois que j'ai fait ça. Mais bon, pourquoi pas. Et je kiffe et je me dis, bon, bah, dans ce premier livre, j'ai tellement été bridée en fait, dans le milieu de la mode où je ne pouvais jamais développer cette partie artistique et où il fallait toujours rentrer dans les cases et ça ne fonctionnait jamais. Je ne parle même pas, si je repars en arrière, de mon bac pro compta qui a des millénaires de ma personnalité et de mon travail ce jour-là. Mais je me suis dit, bon, bah, c'est mon livre, je peux tout mettre dedans. Je peux mettre ma personnalité, mon cœur, tout ce que j'ai. Et avec sincérité, ça va marcher, je me dis. Je fais le livre, j'arrive quasiment à la fin. Et là, la maison d'édition me dit non, mais en fait, ça ne va pas le faire. Tu ne rentres pas assez dans les cases. Ce n'est pas possible. Il va falloir tout refaire et que tu fasses ça comme ça, comme ça, comme ça, que ça rentre comme ça, que ce soit carré. Ah, je dis bah non. Non, 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 non. C'est non. Je ne veux pas tout recommencer. Moi, je me dis avec cette nouvelle. Au début, je ne me dis pas tout de suite que ça va devenir mon métier. Mais rapidement, je me rends compte que ça me plaît énormément, en fait. Et en fait, pour moi, quand tu rentres dans un métier artistique comme ça et qu'en plus, tu vas te retrouver à ton compte, si je ne fais pas ce qui me plaît, si je ne montre pas ma personnalité, ça n'a pas d'intérêt, en fait. Donc, je dis, bah non, c'est non. Donc, la collaboration s'arrête. Sauf que moi, j'ai un livre, j'ai plus de travail, j'ai plus de maison parce que j'ai décidé que je parte au Canada.
No panique, tout va bien.
C'est, sur le papier, je me dis, bon, c'est pas glorieux, mais c'est pas grave, ça va passer. Donc, je finis ce livre, je l'auto-édite et je le fais imprimer un mois avant de partir au Canada. C'est Noël, donc je le fais imprimer un mois avant de partir en 200 exemplaires. Et je vends tout et je pars au Canada. Et quand j'arrive, en fait, j'ai fait imprimer mon livre, j'ai fait mon premier ouvrage, j'ai abandonné la mode et j'en suis très contente. Et je me dis, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux faire ça tout le temps parce que j'adore ça, en fait. Et donc, il a fallu tout mettre en place, à la fois à distance, parce que je suis qu'en PVT, donc je suis toujours française, même si pour l'instant, je vis ici. Et puis surtout, je n'avais pas encore tous les axes du Canada. Donc, je me suis dit, OK, je vais utiliser ce pouvoir, entre guillemets, de pouvoir travailler avec les deux pays à la fois, quoi, autant que ce soit utile. Et là, donc, je me suis lancée à mon compte en France, en même temps que je publiais le livre, parce qu'il fallait évidemment que ce soit carré. Et voilà, je deviens illustratrice jeunesse complètement. Et après, toute l'année, ça a été de tout mettre en œuvre pour essayer que ça prenne le plus vite possible. Parce que déjà, devenir auto-entrepreneur en France, c'est pas facile, malgré les connaissances et le fait que c'est un pays qu'on connaisse. Alors, dans un pays qu'on ne connaît pas, dans lequel on n'a jamais été de toute sa vie, c'est encore plus compliqué, quoi. Donc, c'est là que ta question tout à l'heure, comment rencontrer du monde, où elle s'imbrique encore plus, parce que je me retrouve vraiment seule à 100% à la maison. J'ai pas de famille. Enfin, j'ai une famille, mais elle n'est pas là.
Elle est pas là.
Tous mes potes ne sont pas là. Donc, j'ai que mon conjoint qui, lui, trouve très rapidement du travail et un travail très prenant. Donc, il n'est jamais à la maison. Et moi, je me retrouve toute seule, sans salaire, avec un travail que je ne connais pas, mais que j'adore. Donc,
tout va bien. Tout va bien. Pour une bonne inspiration, ça va passer. Mais j'aime bien parce que t'es positive en même temps. Tu dis, bon, j'ai plus de maison.
Ah bah faux.
J'ai plus de famille sur place, j'ai plus rien. En même temps, j'ai trouvé un truc que j'adore. Bon, on va y aller quand même, quoi. Mais bah ouais. C'est l'expatriation, quoi. Enfin, c'est de se lancer malgré, parce que comme tu dis, en France, bon, c'est compliqué aussi de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais à l'étranger, on a encore plus de challenges. Et c'est ce que j'essaie de montrer avec tous ces podcasts que je fais et tout ce réseau, c'est possible, même si on n'a rien et qu'on s'accroche. Donc non, c'est
très... De toute façon, il faut toujours partir avec cette idée que tout est possible, parce que si on part et qu'on voit le verre à moitié plein, décidément, je l'aurais utilisé 4 fois durant toute l'heure. oui, en fait, si on garde ce mindset qu'il y a ici au Canada, qu'il y a en Australie, bah, du coup, les choses sont plus faciles, en fait. Et c'est grâce à ça, en fait, qu'on avance et qu'on se donne les moyens d'avancer, de rencontrer du monde, d'actionner les choses, en fait.
Je me demandais comment tu t'écrirais ton style, parce que tu as vraiment un style particulier. Enfin, moi, je sais que j'ai vu ce que tu fais, mais...
Je suis illustratrice jeunesse, comme je le disais. C'est vraiment quelque chose qui m'anime depuis toujours. J'ai vraiment un esprit qui sort tout droit des contes pour enfants. Donc ça a toujours été le cas, hein. Ça n'a jamais changé. C'était justement la bonne idée de mettre ça en action et d'essayer de gagner de l'argent grâce à cet esprit sorti tout droit des contes pour enfants. Et après, moi, je me spécialise surtout dans l'univers des animaux. Je m'amuse beaucoup à humaniser les animaux dans le monde actuel, surtout après toute cette négativité que j'ai trouvée à Paris, où vraiment j'avais un ras-le-bol général de l'humain. Et au contraire, ma vie en Normandie, où j'ai un tas d'animaux et que ça égaye toute ma vie. Après, j'ai donc vraiment tout autour des animaux. J'aime vraiment... J'ai toujours un univers assez... je pioche beaucoup d'idées dans des illustrations anciennes, dans du vintage. Je ne suis pas une très grande fan du moderne, du extra coloré. Donc oui, j'ai...
Il y a un petit côté rétro, hein, dans ce que tu proposes.
C'est ça, il y a un petit côté rétro, très authentique dans mon choix de papier, de mes couleurs, de mes traits. Pareil, quand j'illustre les animaux, j'aime garder un réalisme. En fait, je suis pro le fait que les enfants découvrent des animaux comme ils sont vraiment dans la nature. Et voilà, tout en gardant un peps un peu actuel. Et c'est toujours ce que j'essaye de représenter dans mes dessins. Montrer une vision du monde un peu plus légère et un peu plus poétique, tout en restant dans l'idée qu'on est en 2024 et qu'on ne peut pas faire abstraction de tout ce qui se passe.
Ouais, voilà. Donc c'est pour ça que j'imagine que c'est ce monde un peu qu'on a en ce moment, qu'on vit, qui est un peu compliqué quand même, qui fait que tu n'as pas forcément voulu aller dans l'illustration adulte, BD, enfin tu vois, comme on pourrait avoir envie, tu as voulu rester ce côté un peu naïf peut-être, à te dire ça me fait du bien, en fait, ça fait du bien au monde de voir.
C'est ça, il y a ce côté qui fait du bien au monde, je pense, et qui moi correspondait à 100% en fait à ma personnalité et ma façon de voir la vie, parce que c'est plus facile, même si tu peux pas fermer les yeux sur tout, évidemment, on est d'accord, mais j'aime ce côté un peu léger. Alors c'est assez contradictoire, parce qu'à côté de ça, du coup, il y a quand même les gens te prennent beaucoup moins en sérieux, parce que tu dessines des lapins, des ours, quand tu deviens artiste, il y a quand même tu descends d'un cran, hein. Quand tu dis que tu gères les productions pour des grandes maisons de mode, c'est génial, oh là là, c'est fou ce que tu fais. Et quand tu dis que maintenant, bah, tu dessines des lapins en restant chez toi, je fais vraiment
du... Mais bon, enfin, c'est vrai, c'est ça, quoi.
Et les gens, en fait, prennent les choses comme ça. Et du coup, c'est difficile, en fait, de se faire prendre au sérieux et toi, rester à fond et de dire non, c'est pas un loisir, c'est ma profession. Et en fait, ce que je fais, bah, ça permet aussi à vos enfants de grandir. Et finalement, l'illustration en général, l'illustration jeunesse, hein, on le retrouve partout. Tu le retrouves pour plein de grandes marques, dans la publicité, dans la com, dans l'édition, les packagings de n'importe quoi. Et il y en a absolument partout. Et en fait, les gens ne prennent pas forcément compte que c'est quelque chose qui est omniprésent dans la vie de tous. Et qu'il y a un marché, c'est certain, et voilà.
Je me dis, tu dois subir aussi quelques clichés, tu vois, sur femme expatriée qui dessine des animaux. On t'a déjà dit, par exemple, bon, enfin, tes petits dessins, c'est gentil, quoi, tu vois.
Ah bah oui, oui, je veux dire, il y a des gens, mais même ça peut arriver que ce soit des proches, hein, des proches. Non, mais ce serait bien que tu trouves un travail. Bah oui, j'avais pas du tout pensé à ça, mais ce serait bien que je trouve un travail, oui. Mais en fait, c'est mon travail, donc c'est mon travail, mais oui, non, les gens ont du mal à s'imaginer que dessiner, c'est qu'un peu plus que dessiner, hein, évidemment, on ne dessine pas 100% du temps, même si ce serait incroyable, et sur le papier, on en rêve tous, mais c'est tellement plus que ça, parce que comme toutes les personnes qui sont à leur compte, il y a le dessin, certes, mais il y a des marchés, il y a la com, il y a la compta, il y a merci, prof de comptabilité, quand j'ai passé mon bac. Finalement, ça m'a été utile.
Voilà.
Tout a une utilité à un moment. Et d'ailleurs, c'est toujours ce que je me suis dit, que chaque chose que je faisais, même si sur le moment n'était clairement pas une passion, ça a toujours une utilité à un moment, ça intervient toujours à un moment de sa vie. Et oui, il faut laisser rien de côté et tout prendre.
Tu disais que, bon, ça me faisait rire, mais en même temps, on passe tout par là. T'as plus de maison, t'as plus de boulot, machin. Donc, au final, là, tu dépends de ton conjoint. Et il y a beaucoup de femmes qui... c'est pourquoi il existe The Musette, c'est mettre en avant ses conjoints suiveurs, entre guillemets, et qu'il y a une dépendance financière. Comment, toi, tu le vis? Ton objectif, je suppose que c'est de ne pas être comme ça tout le temps et de, voilà, t'as un défi à relever là-dessus. Comment, toi, tu le vis? Est-ce que t'as des réflexions aussi?
C'est compliqué parce qu'au début, quand on se lance, on a une volonté de s'émanciper, en fait, de tout, en fait. On part avec bien en tête, on est une warrior, on va tout défoncer, ça va être incroyable et on n'aura besoin de personne. Bon, sur le papier, c'est comme ça. Et là, tu te retrouves seul, sans argent, à dépendre totalement en fait de ton conjoint, ce qui n'était clairement pas le but recherché au début, vu que c'est vraiment totalement l'inverse qu'on cherchait. Tu te retrouves un peu femme au foyer, ce qui est, et j'ai absolument, je veux dire, je respecte mais totalement les mamans et les femmes qui font ça H24, parce qu'en fait c'est tellement dur. C'est pas ce que j'avais prévu moi sur le principe. Alors je travaille toute la journée, mais t'es à la maison, tu dépends d'un compte en banque qui n'est pas le tien. Même si je suis totalement libre, hein, évidemment, il y a vraiment cette contradiction en fait qui est énorme. Et encore une fois, vraiment, c'est un peu une chute libre, quoi, parce que c'est très loin de ce que tu avais imaginé et de la difficulté en fait à se retrouver à la maison tout le temps, quoi.
Non, mais c'est bien que tu partages ça, parce que ceux qui ne sont pas dans cette position-là ne se rendent pas compte à quel point ça peut être difficile.
Et puis les autres ne comprennent pas. C'est très dur, en fait. C'est très, très dur parce que, par exemple, mon conjoint qui travaille énormément, quand il rentre, heureusement, j'ai de la chance, c'est quelqu'un d'hyper ouvert et d'hyper moderne. Enfin, moi, je fais partie de ces personnes... Je le vends un peu sur les réseaux, mais je fais partie de ces personnes qui ont un conjoint qui fait absolument tout, qui fait à manger, le ménage, le repassage. Le
tout, ah, mais dis pas tout. Ça, là, tu vas te...
Il fait tout. Donc,
ça va pas.
Mais, non, mais là, le fait de se retrouver à la maison tout le temps, forcément, lui, quand il rentre, il fait des horaires hein, qui sont même pas humains. Il se dit, bon, bah, t'as été à la maison toute la journée, t'aurais pu faire un peu plus. Non, mais en fait, si t'es à la maison, c'est parce que je travaille, tu vois. Et sans le vouloir et sans être négatif du tout, parce que c'est la logique de penser, en fait. Comme tu partirais en week-end et tu laisses tes enfants à ton mari, tu vois, et tu rentres, il reste des choses à faire, mais en fait, il n'a pas eu le temps parce qu'il y avait 1000 choses à faire, tu vois. C'est juste humain, en fait. Et malheureusement, même si ça ne part pas de critique ou quoi, tu te prends toujours ça. Hein. T'as comme ce truc où, voilà, je suis à la maison, donc... J'en profite pour faire ça, je lance un truc, une machine, je fais des papiers, je fais des... Et en fait, oui, c'est ça. Tu te retrouves, ton business plan qui était de devenir The Nouvelle Nana de l'année, et ben, tu te retrouves The Nouvelle Nana...
Non, mais moi, c'est très... Enfin, ça me fait rire, parce que enfin, je sais qu'il y en a plein qui vont se reconnaître, donc ça me fait rire. Et alors, en plus de ça, si tu rajoutes après la logistique enfant, t'as pas fini.
Ah, mais alors là, je n'imagine même pas.
Mis à part tout ça quand même, mais je comprends, c'est hyper difficile. Je voulais savoir si tu avais quand même une expérience un peu gratifiante qui t'était arrivée en me disant, bon, voilà, au final quand même ça paye tout ça, c'est hyper dur mais ça paye.
Bien sûr, finalement la plus belle, le plus gratifiant, je vais continuer sur l'histoire de mon livre, j'avais fait imprimer en 200 exemplaires en France. Quand je suis arrivée au Canada, je l'ai fait réimprimer, mais en 2000 cette fois. Donc, c'est que...
Ah, mais c'est risqué, hein. Parce que t'es pas sûr d'avoir 2000 lecteurs.
Ça, mais en même temps, faut prendre des risques pour pouvoir avancer. Et c'est vrai que ce moment où tu récupères tes 2000 livres, et même la première fois, les 200, t'es fier. T'es très fier parce que t'as tout fait. T'as tout fait. T'es auteur, illustrateur, auto-éditeur. Et ça, c'est une énorme fierté. Et ça continue avec d'autres contrats, évidemment, avec d'autres auteurs ou quand ils t'envoient le livre que t'as illustré avec eux, c'est pareil. Et ça, ça me fait beaucoup penser à la mode où tu travailles pendant des mois et des mois, voire des années, des fois, sur un projet. Et une fois qu'il voit le jour, c'est un produit, donc tu l'as entre les mains, c'est physique, tu te rends tellement compte, en fait, de « Ok, tout ce travail que j'ai fait, ça a servi à ça, quoi. » C'est beau, c'est très beau.
Félicitations, parce que je trouve ça très, très courageux de tout. Enfin, à chaque fois, je le dis à toutes les femmes que j'interroge, bravo, parce que c'est tellement difficile que, d'arriver au final quand même à faire ce qu'on veut. C'est très chouette. C'est quoi tes objectifs, tes envies par rapport à ta profession?
Déjà, en numéro un, de devenir indépendante financièrement, évidemment. Donc, j'espère vraiment que cette année, cette deuxième année d'entrepreneuriat, parce que c'est vraiment le début, va me permettre vraiment de le devenir, même si c'est un tout petit niveau, mais juste avoir le minimum, en fait, pouvoir compter que sur moi. Ensuite, j'ai une grosse volonté de travailler avec des grosses entreprises. J'accélère mon démarchage et j'espère vivement avoir de belles collaborations pour cette année. Je travaille doucement sur l'écriture d'un deuxième livre et surtout l'illustration, qui est pour moi le plus... je suis vraiment illustratrice, mais... sur le travail d'un la publication d'un deuxième livre. Ce serait vraiment les trois axes de cette année 2024.
Bon, ça va, on est qu'en janvier, donc c'est bon, t'as le temps.
C'est le temps.
Dis-moi, quel conseil t'aimerais partager avec des gens qui aspireraient à être illustrateurs et faire une espèce de transition professionnelle comme t'as fait toi, parce que c'est pas évident non plus ce monde-là, le monde de l'artiste.
Non, c'est sûr. La première chose, et c'est clairement la plus importante, c'est de trouver sa niche, comme on dit, sa patte, parce que des illustrateurs, il y en a plein, il y en a des quantités astronomiques. Donc, essayer de faire ce que font des gens, c'est pas du tout une bonne chose, et c'est l'avantage de ce métier créatif. C'est qu'en fait, tu vas être reconnu pour ce que tu es, trouver son univers, ce qui nous correspond, ce pour lequel on trouve du plaisir. Et ça, c'est la première chose. Et après, ne pas avoir peur de parler, de démarcher, d'être en constante recherche de nouveaux contacts, de réseauter, comme on dit ici au Québec. C'est vraiment la chose la plus importante. Et parfois, on en oublie, en fait. On a tendance à... On peut rapidement se retrouver à passer tout son temps à faire du dessin, ou du moins de créer ce pourquoi on fait notre entreprise, et en oublier qu'il y a toute une partie derrière, et avoir des très beaux produits, c'est une chose, mais si on n'a nulle part où les vendre, ça ne sert à rien. Donc, laisser un peu cette partie créative, même si passionnante elle l'est, et donner un coup de collier sur la communication, la vente, et tout ce qui va avec, quoi.
Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui ont envie de s'installer au Canada, à Montréal ?
Bah, acheter un beau manteau, parce qu'il fait froid. c'est vraiment important, avec le double boutonnage et tout, c'est vraiment très important. Mais non, faut foncer, parce que pour moi, tous les pays sont à découvrir. En plus, c'est un pays charmant et les gens sont très sympathiques. Il y a des points négatifs comme partout, c'est évident. Ne pas se fier à tout ce qu'on voit sur Pinterest et sur les réseaux, mais ça, c'est de la vie en général. Mais encore plus ici, parce que c'est un pays qui est immense. Donc, ce qu'on va voir potentiellement, c'est peut-être à 10 jours de voiture. Donc, faut pas faire une généralité. Bien se renseigner sur la partie dans laquelle on veut aller et puis y croire, parce qu'en fait, ici, tout est possible, quoi. Les choses vont très, très vite. Les choses vont très, très vite. Je parle pour moi et même pour des personnes qui ne créent pas leur entreprise. On peut tout faire sans diplôme, sans stage, sans rien du tout, en étant une personne totalement différente. Si on est motivé, qu'on a envie, tout est possible à n'importe qui.
Cool. Donc, c'est ça, c'est l'Australie, mais au froid, quoi. C'est ça.
C'est ça. Et ils aiment les Français.
Ah, voilà. Parce que c'est déjà pas mal. J'ai deux dernières questions. Ça serait, au final, l'expatriation, ça a été pour toi la chance de te découvrir et de te lancer?
Ah oui, c'est la plus belle décision que j'ai prise de toute ma vie.
Ben, voilà, lancez-vous alors. Et pour finir, est-ce que tu aurais trois mots pour décrire The Musette?
J'irais inspiration, création et émancipation.
Merci beaucoup, Pauline, de ce rendez-vous avec toi.
Merci. Je vous en prie.
De ta transparence, de ta légèreté aussi face aux choses, parce que ce n'est pas du tout évident. Et voilà, vraiment, tu as vraiment bien décrit ce par quoi on passe quand on veut entreprendre à l'étranger et que...
J'ai essayé d'être le plus honnête possible, parce que ça ne sert à rien de vendre du brillant. Exactement. Il y a beaucoup de brillants, mais il y a aussi des parties plus dures.
Bah écoute, merci beaucoup pour tout ça. J'ai hâte de voir ton deuxième bouquin. Et puis, on se tient au courant. Et puis, voilà, n'hésitez pas à suivre Pauline sur ses réseaux sociaux et retrouver le podcast sur notre site. Merci, Pauline.
Merci, Aline. À bientôt.
Je suis ravie de vous avoir fait découvrir une nouvelle histoire d'expatpreneur. Un grand merci à notre invité de s'être livré avec sincérité et de nous avoir donné plein de bons conseils. Si vous souhaitez soutenir et faire briller nos entrepreneurs aux quatre coins du monde, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur les différentes plateformes. À bientôt pour un prochain podcast d'Expatpreneurs.